Eh bien, pour commencer, je remercie Franck et Tiziana de m'avoir invité. Mon thème, c'est l'évaluation des psychothérapies, fondamentaux, résultats et futurs. Je vais recouper un certain nombre de choses qui ont été dites et donc je passerai assez vite, ce qui gagnera un peu de temps. Tout d'abord, il faut définir ce que c'est que la psychothérapie. On peut la définir comme des interventions psychologiques dont le but est de soulager la souffrance d'un patient, d'un couple, une famille ou un groupe. Toutes ces modalités existent en psychothérapie. Il y a un contrat explicite de soins. Et il y a un statut du psychothérapeute qui a été défini par la loi du 20 mai 2010, révisée en 2012. Et au niveau éthique, un psychothérapeute doit se situer en conformité avec l'état des connaissances actuelles, tout comme autres soignants. Ce que n'est pas la psychothérapie, c'est la guidance spirituelle, la direction de conscience religieuse, l'entrée dans une secte, le coaching, qui est donc une sorte de monitoring ou de supervision qui n'est pas forcément liée à une intervention destinée à modifier favorablement le psychisme quand il est perturbé. Le développement personnel, la psychothérapie peut faciliter le développement personnel, mais les méthodes de développement personnel ne sont pas forcément en prise avec les symptômes ou les problèmes ou les diagnostics qui sont ceux que doit aborder la psychothérapie. Donc, ce qui définit un champ d'intervention à partir de ce que Franck a appelé très justement des troubles mentaux, que ça plaise ou pas, il y a des classifications des troubles mentaux qui permet d'inclure un certain nombre de personnes dans la psychothérapie. Cette classification, comme le DSM ou la CIM, est suffisamment large pour inclure beaucoup de problèmes, en particulier les problèmes de deuil, les problèmes psychologiques temporaires, etc. Donc c'est ça qu'on va aborder à travers la notion d'évaluation. Alors la question, j'ai rappelé les travaux de Paul dont on a parlé tout à l'heure, c'est finalement la question, c'est quel traitement par quel thérapeute est le plus efficace, pour quel sujet, dans quel problème, dans quelles circonstances et comment. Le comment étant certainement la question la plus difficile, puisqu'on est arrivé assez rapidement à définir l'efficacité des psychothérapies. Il y a actuellement réellement une masse de données. Il n'y a pas pauvreté de données, au contraire. Il faut bien voir que les premiers psychothérapeutes à s'être évalués sont les psychanalystes, il y a très longtemps. Les premiers TCCistes ont commencé à être évalués, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les années 60. Et la TCC était basée sur des preuves bien avant qu'on parle de médecine sur des preuves. La thérapie comportementale et cognitive était fondée d'emblée sur des preuves. Et que c'est finalement un développement très récent, 96, c'est quand même relativement récent, d'ailleurs c'est important de fonder la médecine sur des preuves. Mais comme on l'a rappelé tout à l'heure, les méta-analyses ont été inventées par des psychologues, qui étaient Smith et Glass, à l'instigation des compagnies d'assurance. Alors, il y a 200 à 400 formes de psychothérapie, et probablement plus, mais seulement 8 formes ont été réellement testées selon les méthodes de médecine fondée sur des preuves. Tout d'abord, l'hypnose. Il faut rappeler que le premier essai contrôlé sur une psychothérapie a été réalisé en France en 1784 à l'instigation de Louis XVI, qui était très inquiet de voir son épouse s'intéresser au magnétisme animal de Mesmer, et qui a ordonné une commission royale de tester le problème sur le plan scientifique. C'est un roi très scientifique, il n'était pas doué pour la politique, mais il était bon en sciences. Et il a fait reproduire l'expérimentation par l'Académie de médecine, et il a montré que le magnétisme animal n'existait pas. Par contre, il y avait une influence psychologique des attentes des sujets à travers la méthode du baquet de Mesmer. Donc c'était la grande première. L'essai contrôlé en psychothérapie a été inventé en France, pas loin d'ici. Ensuite, la psychanalyse et les thérapies psychodynamiques, contrairement à ce qu'on dit, ont été testées. Et Freud lui-même avait élaboré dans Psychanalyse terminée, Psychanalyse interminable, des critères de guérison, parfaitement clairs, au premier rang desquels la guérison des symptômes. Les psychothérapies cognitives et comportementales, bien entendu, les thérapies humanistes de divers niveaux, en particulier la thérapie de Rogers, la Gestalt thérapie, l'analyse transactionnelle, la thérapie interpersonnelle qui est très proche des TCC. Les thérapies familiales, c'est plus une modalité d'intervention qu'un courant psychothérapique en soi-même, puisqu'il y a des thérapies familiales qui sont psychanalytiques, d'autres qui sont cognitives et comportementales, d'autres qui se disent systémiques. La relaxation aussi a été testée, les différentes formes de relaxation, et la mindfulness, qui est la thérapie de pleine conscience, a été testée notamment dans la dépression. Donc c'est à partir de ce corpus qu'on peut définir un certain nombre de choses. Les fondamentaux, je vais aller assez vite parce que je vais ressasser un peu ce qu'a déjà dit Franck Ramuz, hein, ce n'est pas la peine de répéter. Je vais peut-être insister sur un certain nombre de points qui sont des principes scientifiques qui sont utilisables dans l'évaluation des psychothérapies. Il y a un premier principe qu'il faut voir, c'est le principe du rasoir d'Occam, qui était un moine franciscain du XIVe siècle, qui a dit qu'il fallait faire des hypothèses avec très très peu de contenu hypothétique, parce que sinon on allait multiplier les entités sans pouvoir arriver à les tester. Donc il faut être très très parcimonieux dans les hypothèses, il ne faut pas vouloir tout bouffer d'un seul coup. La prédiction des résultats aussi, le fait qu'une bonne théorie est une théorie qui est réfutable, il faut avoir une hypothèse réfutable, c'est-à-dire qu'une expérimentation cruciale peut dire que l'hypothèse ne fonctionne pas. C'est le principe de Karl Popper. Le contrôle des effets d'attente, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut absolument insister, en particulier les attentes de l'expérimentateur. C'est ce que Rosenthal appelait l'effet Pygmalion, c'est-à-dire si on pense qu'un sujet va réussir, il va réussir. Si on pense qu'il va échouer, il va plutôt échouer. C'est une influence de l'expérimentateur sur l'expérimentation. Les attentes des sujets vis-à-vis de l'expérimentation, c'est aussi un point tout à fait fondamental, puisqu'un sujet peut être tout à fait observant, ou il peut jouer ce qu'on appelle le « screw you role », c'est-à-dire « je vous emmerde », et aller contre l'expérimentation. Hein ? Il peut aussi être parfaitement obédient, il peut aussi... donc c'est des variations comportementales qui sont à prendre en compte dans l'interprétation des expérimentations. Il y a aussi l'effet de nouveauté. Une thérapie nouvelle a toujours plus d'effets qu'une thérapie plus ancienne, c'est ce que les Américains appellent le « bandwagon effect », c'est-à-dire être sur le chariot de l'orchestre, en tête de la parade. À ce moment-là, effectivement, elle est créditée, puis après, l'effet s'épuise dans les travaux ultérieurs. Il y a l'effet placebo ou l'effet nocebo, bon, on l'a déjà vu attentivement. Et il y a un point qui était abordé tout à l'heure, c'est le contrôle des effets relationnels non spécifiques, c'est le problème de l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique est quelque chose qui a été élaboré par Freud, de façon assez cursive, d'ailleurs, dans un article qui s'appelle « Commencer le traitement ». C'est la compréhension sympathique, l'affection et l'amitié qui seraient les véhicules de la psychanalyse. Autrement dit, l'attitude classique freudienne était extrêmement différente de l'attitude de marbre des psychanalystes modernes, qui vous reçoivent avec le poker face, pas un sourire, pas un mot. Au contraire, quand on lit les descriptions freudiennes, il y avait une interaction assez positive avec le patient. C'était autre chose. En thérapie analytique, l'alliance thérapeutique réfère aux aspects les plus rationnels de la relation, ce qui différencie l'alliance thérapeutique du transfert, ce qui est une erreur qu'on commet très très souvent, c'est dire l'alliance thérapeutique c'est le transfert, pas du tout. Et Grinson, qui a comme particularité d'avoir été l'analyste de Marilyn Monroe, elle n'avait pas eu de chance, a défini trois types de relations, l'effet sur le patient de la réalité de la personne de l'analyste, l'alliance thérapeutique ou l'alliance de travail et le transfert proprement dit dans la psychanalyse qui implique la régression, le long terme et le fait qu'il y a un attachement de plus en plus irrationnel qui s'instaure avec la personne de l'analyste. Ce sont des domaines complètement différents de fonctionnement relationnel et qui doivent être explorés par des méthodes différentes. Alors l'alliance thérapeutique a été reprise par Beck sous le nom de « relation de collaboration empirique » qui est comparable à celle de deux savants travaillant sur un problème commun. Et cette relation est le fondement des nouveaux apprentissages. Et le changement est dû aux capacités du sujet, et non uniquement à la relation. Elle doit se généraliser dans d'autres contextes que la thérapie. Et le thérapeute ne doit pas trop insister sur son importance vis-à-vis du développement du patient. Il doit laisser libre cours au patient, être simplement un support d'apprentissage. Alors, les travaux ont montré qu'en fait, rien n'était simple en ce qui concerne l'alliance thérapeutique. En particulier, l'alliance thérapeutique n'est pas un phénomène immatériel, c'est quelque chose qui est en interaction avec la technique psychothérapique. Donc, il y a deux études, il y en a d'autres, hein. Une qui a été faite par Joséphine Gisenblow sur les borderline et une autre que j'ai réalisée avec mon équipe sur des études contrôlées qui ont montré, avec des thérapeutes, il y avait deux types de thérapeutes chez Gisenblow, psychanalystes et thérapeutes TCC. Chez moi, les thérapeutes étaient les mêmes. Ils faisaient tantôt de la thérapie rogerienne, tantôt de la thérapie cognitive. Et en fait, il y avait une meilleure interaction, une meilleure alliance thérapeutique en thérapie cognitive qu'en thérapie psychodynamique, dans les deux cas. Donc il y a une interaction entre le maniement de la technique et l'alliance. Donc on ne peut pas distinguer l'alliance de la technique, et il y a d'autres choses qui vont en ce sens. La place de l'alliance est certainement une contribution qui existe, mais qui est faible, sur les résultats. Et il est très difficile de la séparer d'autres facteurs, en particulier l'empathie, la chaleur, la compréhension, la fiabilité, la culture du thérapeute, l'expérience, la confiance, l'âge, etc., et des variables du patient, en particulier sa motivation et ses attentes, et aussi l'évaluation que peut avoir le patient de la crédibilité du traitement. Il faut qu'un traitement soit crédible d'emblée. Si on fabrique un pseudo-traitement, il faut qu'il soit crédible. Si on fabrique un placebo de psychothérapie, il faut qu'il soit crédible. Et à ce moment-là, tout ça va avoir une influence. Ce sont des biais qu'il faut analyser dans les études et qu'on peut rentrer sous la forme de covariants statistiques dans les résultats. Alors, quand on regarde les données sur l'alliance, il y a des méta-analyses, il y en a au moins trois, dont une très récente chez l'enfant et l'adolescent. Elle explique que à peine 7% de la variance des résultats, ce qui veut dire que 93% des résultats sont expliqués par d'autres facteurs, qui peuvent être simplement la nature des sujets, leur psychopathologie, l'interaction entre le thérapeute et ce qu'il sait en termes techniques, etc., etc. Il y a une masse d'inconnus, si vous voulez, dans les résultats qui demandent à être expliqués. L'alliance ne peut, elle seule, expliquer les résultats. Maintenant, comment va-t-on conduire les études sur les effets des psychothérapies? Toutes les psychothérapies commencent par des histoires de cas, des cohortes de cas identiques, des protocoles de cas individuels, ensuite des séries de protocoles de cas individuels identiques, des études contrôlées cas contrôle, des études contrôlées randomisées et des méta-analyses qui permettent d'arriver à des conclusions. Donc comment aussi peut-on mesurer le psychisme? Alors c'est quelque chose qu'on entend souvent, on ne peut pas mesurer le psychisme. Ça a été dit par un ministre célèbre qui nous avait demandé de mesurer quelque chose de parfaitement subjectif, la douleur. Il avait exigé qu'on la mesure. Il n'y a pas plus subjectif que la douleur. Il suffit d'avoir eu des douleurs à un moment pour savoir que c'est subjectif. Et on peut mesurer le psychisme par l'observation directe des comportements, en mesurant des paramètres physiologiques, rythme cardiaque, conductance cutanée. On peut utiliser des méthodes de neuro-imagerie, en provoquant des symptômes ou en mesurant les résultats des thérapies. On peut prédire les résultats des thérapies avec la neuroimagerie actuellement. Et on peut mesurer aussi les thérapies en temps réel avec la magnétoencéphalographie. Et la subjectivité peut être mise en rapport avec des mesures plus objectives à travers des échelles d'auto-évaluation qui sont extrêmement nombreuses et validées, des échelles d'hétéro-évaluation, des inventeurs structurés qui évaluent les symptômes, et des questionnaires de personnalité qui mesurent donc les traits stables de personnalité, comme le néopire qui mesure les cinq grands facteurs et les cinq grandes dimensions, ou des questionnaires qui mesurent des schémas cognitifs, c'est-à-dire des systèmes d'interprétation de la réalité que peuvent avoir les personnes présentant, soit étant normales, soit présentant des troubles de personnalité. Et donc on a quand même actuellement un développement de la psychométrie qui permet quand même d'asseoir les mesures de la subjectivité et de les mettre en corrélation avec des mesures objectives de comportement et des mesures plus objectives de fonctionnement du système nerveux. Donc j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais qu'elle n'est pas si ouverte que ça, au moins à Paris, je pense. Hein, ça semble être quand même le dernier foyer de résistance à cette attitude qui est pragmatique et qui permet quand même d'apporter des résultats. Alors les protocoles de cas individuels, j'irai assez vite, ce sont finalement des mesures répétées qui permettent de faire des inférences sur l'effet d'une psychothérapie. Alors voilà un mémoire très ancien déjà du DIU de TCC que j'ai dirigé à Lyon pendant une trentaine d'années, c'est de 91. Ce qu'on demandait aux étudiants en première année, c'est d'évaluer leur cas avec une phase A, niveau de base de non-intervention, ensuite d'intervenir et de voir ce qui se passait sur la variable dépendante qui était en l'occurrence une échelle de Hamilton. Donc cet étudiant a réussi son coup, puisque à la hausse, durant la phase A, où il n'y a pas d'intervention, le patient semble s'aggraver, se stabiliser en haut, il inverse la tendance, et ensuite, il inverse la tendance, et l'inversion de tendance se maintient dans la phase suivante, qui est de suivi. Donc c'est un protocole quasi expérimental qu'on appelle le protocole AB, qui est exigé des étudiants en TCC actuellement, à peu près partout dans les diplômes, pour essayer de leur enseigner comment mesurer, évaluer leurs résultats. Voilà un exemple de protocole ABAB, qui est un protocole de renforcement, où un professeur ignore le bavardage et renforce par l'attention le comportement approprié des élèves. Renforcement différentiel, et on voit que il y a une ligne de base où il ne le fait pas, une ligne B où il intervient, il recommence en ligne de base à faire n'importe quoi, et ensuite il renforce sélectivement ceux qui font un comportement approprié par rapport à ceux qui bavardent et fichent un peu la panique dans la classe, et on voit à nouveau la diminution du nombre de bavardages. Donc c'est un protocole ABAB, qui est un protocole scientifique relativement facile à mettre en œuvre, qui démontre qu'en faisant varier les contingences, on fait varier les comportements. Alors, on peut évidemment imaginer beaucoup plus sophistiqué, bien entendu, mais c'est des exemples simples pour vous donner comment on peut évaluer le fonctionnement psychologique à un moment au moins d'une classe. Alors les avantages, c'est qu'on a toujours le même groupe ou le même sujet comme témoin. On peut contrôler beaucoup plus facilement les attentes positives. Il faut voir que ces protocoles de cas individuels ont été inventés aussi ici par Claude Bernard. Les collègues américains qui ont développé les protocoles de cas individuels ont toujours rendu un hommage appuyé à Claude Bernard. C'est des protocoles physiologiques. Ces protocoles ont des limites. Comment peut-on généraliser à partir d'un cas individuel ou de quelques cas individuels? Il y a aussi la longueur optimum de la ligne de base, les problèmes éthiques, les traitements à effet irréversibles. C'est une préparation aux études randomisées. Ça permet d'avoir de se faire une idée avec une dizaine de cas et dire après tout, ça vaut le coup de continuer ou mieux vaut arrêter. Donc ça, c'est une stratégie dans le développement de la recherche. Alors évidemment, on a tout dit sur les essais randomisés, je ne vais pas recommencer. C'est l'étalon or quand même de la mesure de l'efficacité des psychothérapies. On le critique, comme toujours, on critique, mais tant qu'on n'aura pas trouvé mieux, je ne vois pas bien comment on peut faire autrement pour affirmer qu'on a réellement un résultat, tout en discutant très attentivement. Alors, Franck a parlé tout à l'heure des publications, il y a toujours un chapitre dans les publications où on s'auto-flagelle en disant « tous les biais que j'ai, c'est épouvantable, etc. » Il faut en faire au moins 20 lignes si on veut être, etc., mais rien ne prouve néanmoins que, etc., mais néanmoins je pense que, etc., bon, il faut faire un truc, un exercice comme ça de style, mais qui dit, bon, voilà les limites de ce que j'ai fait. C'est pas affirmé qu'avec un essai contrôlé, on a trouvé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir déjà une première idée de ce qu'on a fait avec un essai contrôlé. Donc, on fait progresser énormément et la recherche, d'une part, et les services, et les équipes avec les essais contrôlés qui nous apprennent énormément de choses, en réalité. Alors, les comparaisons, ça peut être une comparaison à une liste d'attente, un groupe attention placebo qu'on maintient, avec une petite prise en charge, à un placebo crédible, ce qui est très difficile à monter, parce que les gens sont de plus en plus cultivés, et ils savent qu'ils ont tiré la condition contrôle, ou comparer une thérapie de soutien en disant « oui, c'est le pied de la thérapie de soutien », etc. Mais les gens nous croient plus ou moins, parce que j'en ai déjà eu, etc. Donc on a des problèmes, c'est pas sans problème de faire des études contrôlées. Comparaison d'une thérapie à valider à une thérapie déjà validée. C'est peut-être encore la meilleure solution, et même la solution la plus éthique. C'est-à-dire, bon, on a un truc qui est déjà validé, on compare, on voit si on fait mieux, on fait moins bien. C'est en général la meilleure solution. Et on peut rajouter un troisième groupe placebo pour voir si réellement il y a une distance entre l'effet placebo et les deux thérapies à l'étude, ce qui nous est arrivé d'ailleurs dans un essai sur la réalité virtuelle, où le groupe placebo, il y avait une différence, mais elle n'était pas tellement significative avec la réalité virtuelle et la TCC de l'autre. On l'a publié dans Cyber Psychology, c'est avec Berthoz et Jouvan, et mon ami Charles Pull. On a publié nos résultats, on en a un résultat très surprenant, où effectivement le groupe en liste d'attente s'est amélioré. Mais pas autant que les autres, mais la différence n'était pas absolument significative. Bon, on a pris ça comme un résultat, on l'a publié, il faut publier les résultats négatifs aussi. Ce qui aboutissait à la conclusion, d'ailleurs, que finalement, à terme, la thérapie en réalité virtuelle était égale à la thérapie comportementale classique dans l'agoraphobie avec attaque de panique, avec cette anomalie qu'il n'y avait pas une différence au début avec le groupe attente. Donc il faut voir qu'à ce moment-là, il faut interpréter les résultats et les publier. On a eu du mal à se faire publier, justement à cause de ce résultat, mais on a finalement été publié. Alors, la définition de la méta-analyse, je ne vais pas entrer dans le détail, en gros, c'est inclure la totalité des essais, y compris ceux qui sont dans les tiroirs. Donc je suis régulièrement, pour la dépression, sollicité, parce que j'ai dans mes tiroirs des essais que personne n'a, que j'avais récupérés dans des congrès, que je renvoie régulièrement à ceux qui font des méta-analyses. Et donc, on est à la recherche du syndrome du tiroir, où il y a des études, où les gens ont eu la flemme de les publier, où ils ont eu peur de les publier, ils n'ont pas eu le temps, ça arrive, mais il faut les inclure quand même. Et alors, on peut faire soit une méta-analyse en prenant que les essais d'extrême qualité, ce que fait Cochrane, qui est extrêmement contestable. L'autre attitude des méta-analystes lyonnais, comme Kuchera, c'est d'inclure tout, y compris ce qui est contestable, en disant que ça donne une représentation de ce qu'est le champ d'intervention psychothérapique ou médicale. C'est même les essais un peu vaseux, il faut les inclure et puis les discuter après. Parce que sinon, on perd de l'information et on aboutit à des résultats comme Cochrane, on se retrouve avec deux études qui sont censées être de haute qualité et on infère à partir de là. Bon, on est pris entre ces deux extrêmes avec la méta-analyse. Alors, la taille d'effet, bon, une grande taille d'effet, ça dépasse 80. Quand on a une taille d'effet qui est à 1, on peut dire quand même qu'il y a une différence statistique significative entre le groupe traité et le groupe contrôle, qui correspond au devenir du sujet moyen d'un groupe par rapport au devenir du sujet moyen d'un autre. C'est ça, la taille d'effet. Donc c'est une grandeur c'est un calcul extrêmement simple en réalité, qui a été mis au point par Smith et Glass et qui permet de conclure que, bon, ben, toutes choses égales par ailleurs, on arrive à un effet qui est intéressant. Un effet à 0,50 n'est pas à négliger, mais quand on descend en dessous de 0,50, on commence à être vraiment dans des petites différences qui incitent à augmenter le nombre d'essais pour arriver à voir si réellement la différence s'accroît ou s'il n'y a pas de différence. Donc il y a souvent des méta-analyses beaucoup trop précoces où on aboutit à des conclusions sur 4-5 essais. Il faut attendre d'en avoir quand même au moins une bonne vingtaine pour se faire une idée. Alors, les limitations de la méta-analyse, c'est les études non publiées, ça je l'ai déjà dit. La sélection pro domo des études, il y a des gens qui sont spécialistes de la sélection des études qui les arrangent et de l'élimination de celles qui ne les arrangent pas et qui se taillent des réputations comme ça de grands méta-analystes. Mais quand on regarde attentivement, ils ont une règle de sélection des études qui favorise systématiquement leur biais personnel. Hein, je ne nommerai personne, mais il y en a qui sont très célèbres dans ce domaine. Bon, la seule solution, c'est la totalité des études, avec un niveau de méthodologie acceptable. Et il faut aussi que ça porte sur des méthodes spécifiques et non pas sur une forme de psychothérapie. Parce qu'il faut qu'à chaque fois, ça soit une forme de psychothérapie, mais un problème spécifique. Sinon, on se retrouve avec des biais considérables d'interprétation. On dit la thérapie X marche, mais on s'aperçoit qu'on a mélangé la dépression avec l'anxiété des gens normaux, des gens qui ont des problèmes avec les mathématiques, etc. On ne peut en tirer aucune conclusion. Donc, il y a une critique de la raison méta-analytique à avoir, mais pour cela, il faut la connaître. Il faut bien connaître, il faut en avoir fait même aussi, soi-même, pour bien établir la critique. Alors, les résultats des psychothérapies, qu'est-ce que la preuve scientifique ? Si on prend les recommandations de l'ANAES qui sont en phase avec la plupart des recommandations mondiales, la preuve scientifique établie, c'est des essais comparatifs avec randomisation, avec de nombreux sujets, donc une bonne puissance statistique, des essais comparatifs randomisés et une analyse de décision fondée sur des études bien menées. Donc il faut une évaluation de la qualité des études. Là, on a sur une preuve scientifique établie. Il y a un niveau 2 où il y a une présomption qui n'est pas négligée. Ce sont des essais comparatifs randomisés de faible puissance statistique, des études non randomisées mais comparatives, ou des études de cohorte qui disent finalement il y a peut-être quelque chose d'intéressant. C'est ce que quand on voit les rapports, présomption scientifique. J'étais un peu surpris par le rapport sur l'autisme, d'ailleurs, parce que nous, dans le rapport INSERM de 2004, on avait attribué un grade A au TCC, et brusquement, on voit ce grade A passer en B dans le rapport HAS, alors qu'il y a beaucoup plus d'études positives, et que si on avait appliqué ces grades, on devait donner un grade A au TCC, un grade B aux méthodes de TED de Madame Barthélémy, etc. Enfin, ils ont tous décalé vers le bas. Ils ont été très conservatoires, je dirais. C'est une attitude. Moi, je ne les critique pas forcément. Mais faible niveau de preuve, c'est quand on a des études 4 et moins. Et aussi niveau 4, c'est des études comparatives avec des biais, des études rétro, des séries de cas. Et puis en tout en bas, il y a l'opinion des experts qui ne vaut rien. Hein. Les opinions, tout le monde en a. Ça ne veut pas dire que ça soit validé. Hein. Alors, l'expertise collective INSERM, trois approches évaluées, est donc une expertise qui nous avait été demandée par l'INSERM, un groupe donc de cliniciens et de chercheurs, qui est paru en 2004. Et elle aboutit à la conclusion que les TCC ont une preuve d'efficacité GRADA pour la grande majorité des troubles, 13 sur 16. Les thérapies familiales, 5 troubles sur 16. Mais ce sont les thérapies familiales TCC qui sont efficaces. Il y avait d'ailleurs que les études contrôlées ne couvraient que pratiquement la TCC. Ce qui porte le bilan des TCC à une efficacité prouvée dans 15 troubles sur 16. Il y avait que l'anorexie mentale, qui est quelque chose d'extrêmement difficile, où il n'y avait qu'un grade B, aussi bien pour la thérapie familiale que pour la TCC individuelle. Les thérapies analytiques ont fait preuve d'efficacité pour un trouble sur 16 et troubles de personnalité. Mais le dossier des TCC dans ce domaine est plutôt meilleur, mais on est resté sur l'idée de leur donner un grade A par apaisement. Certains voulaient donner un grade B, je m'y suis personnellement opposé en pensant arranger les choses, et ça n'a rien arrangé du tout, bien entendu. C'est toujours les médiateurs qui ont tort. Et bon, on a eu une campagne très violente. Je ne vais pas insister là-dessus. Ça aboutit au retrait du rapport INSERM un an après par du site du ministère de la Santé par M. Douste-Blazy qui avait accepté un an auparavant le rapport. Une campagne de presse. J'ai traité mon ministre de tutelle de personnes qui avaient des problèmes de caractère dans Science à la demande d'un intervieweur. Et j'ai reçu un coup de téléphone d'un ami qui travaillait avec lui, Jean-Michel Dumerdard, qui m'a dit « Écoute, il ne faut quand même pas exagérer. » Je dis « C'est le ministre qui exagère. » Je le sais. On fait ce qu'on peut. Voilà. Et donc, ça s'est terminé dans le ridicule. Ensuite, on a fait le livre noir de la psychanalyse, etc. etc. Bon. Voilà. Donc en réalité, ce qu'on disait n'avait rien d'extravagant. Hein, ça n'avait rien d'extravagant, parce que d'autres l'avaient dit avant nous et d'autres l'ont dit après, redit après, dans toutes les études que je vous cite ici. Donc le NICE, Health Technology Assessment, Cochrane, Roth et Fonagy est psychanalyste, et les derniers articles de Beck, de Butler, les revues. Ce qui pose problème dans les TCC, néanmoins, c'est la longueur des suivis et la prévention des rechutes. Je pense qu'il faut voir que les suivis en TCC, au-delà de deux ans, sont rares. Et c'est un problème. Il faut voir qu'il y a de meilleurs résultats dans les suivis à très long terme, dans l'anxiété et la dépression, que dans les autres troubles. C'est un travail qui a été fait par Durham en 2005. En revanche, il y a une prévention des rechutes dans la dépression, et ça, il y a plusieurs travaux, et il y a la possibilité également de prévenir les rechutes de la dépression en ajoutant à la TCC la mindfulness. Donc ça, il commence à y avoir un corpus méta-analytique qui permet de l'envisager, je dirais, de l'envisager par prudence. Alors, ils sont transposables du domaine de la recherche à celui de la pratique quotidienne, contrairement à ce qu'on dit. Il y a des méta-analyses en ce sens, celle de Shadish et celle de Stewart et Chambliss. L'effet d'allégeance ne modifie pas les résultats des essais thérapeutiques dans l'anxiété et la dépression. Parmi les biais, il y a l'effet d'allégeance, c'est-à-dire qu'une équipe fait une étude, elle a une allégeance, et elle peut influencer et biaiser l'étude. Mais quand on compare des études faites par des gens qui ont une allégeance à ceux qui ont l'allégeance inverse, on s'aperçoit que les résultats tiennent. Ça, c'est une méta-analyse qui a été faite par Tallinn. Et la substitution de symptômes dont les psychanalystes parlent, ils en parlent moins d'ailleurs, parce que je pense d'ailleurs que c'est leur problème. Mais la substitution de symptômes est un mythe. Hein, il n'y a aucune étude sérieuse qui le montre. Donc c'est une revue qui a été faite par Tryon en 2008. Alors, les résultats des TCC ont également été étudiés avec les méthodes de neuroimagerie. Et le premier travail est quand même très ancien, date de 1992, c'est Baxter, qui avait montré une diminution de l'hyperactivation du noyau codé droit, qui est une structure qui gère les plans comportementaux, dans les traitements par la TCC ou les médicaments sérotoninergiques. Donc c'est une étude qui a vraiment changé le cours Et ensuite, les phobies sociales ont été évaluées et ont montré donc des perturbations au niveau de la région amygdalienne, les phobies spécifiques, région préfrontale et hippocampique, le trouble panique où l'étude est mauvaise. Les deux études ne sont pas très bonnes, mais enfin bon, on les cite. En revanche, dans la dépression, il y a une diminution des activités frontales moyennes et orbitofrontales, et les régions temporales droites sont plus activées. Il y a une prédiction des résultats par une faible réponse des régions singulaires à des mots négatifs. Pour la personnalité borderline, on a une diminution au niveau de l'amygdale. OK, ça va. Pour le stress post-traumatique, on a montré que les processus attentionnels avec la MEG, c'est une étude Done and Aware, sont accrus vis-à-vis d'images traumatiques standardisées. À travers une augmentation d'activité pariétale et occipitale. Mais les résultats sont encore... Il faut bien voir que je vous livre une synthèse très, très rapide sur les 17 études publiées. Il y en a d'autres de publiées qui sont plus ou moins discutables. C'est un domaine en devenir. On peut absolument pas le réifier. Ce qui est important, c'est qu'on trouve des corrélations entre une modification des comportements et une modification des réponses subjectives et des réponses émotionnelles, et des méthodes objectives de mesure par les neurosciences qui sont à améliorer, bien entendu, parce que le nombre de sujets est souvent faible. Les méthodes elles-mêmes peuvent poser des problèmes, notamment les problèmes de calage de tête, simplement, dans le système, peuvent poser des problèmes. On a des faibles échantillons, ce qui permet de diminuer l'inférence possible. Mais enfin, c'est un domaine qui devrait se généraliser très, très rapidement, je pense. C'est-à-dire que toute thérapie devra apporter des preuves dans ce domaine. Les thérapies analytiques, il y a une seule étude qui a été faite par Milrod, qu'il faut saluer, qui a fait une étude sur les attaques de panique en montrant que les effets qu'elle avait obtenus avec une thérapie psychodynamique des attaques de panique étaient très comparables à ceux qu'on apprenait avec la TCC. Ce qui pose un problème. Ah oui, c'est un problème, c'est les spécificités des thérapies. C'est ce problème que je vais aborder avec le futur de l'évaluation des psychothérapies. Alors, comment évaluer les psychothérapies? Ce que j'ai essayé de montrer dans mon bouquin sur choisir une psychothérapie efficace, c'est qu'en fait, il y a trois périodes, trois grandes périodes. La première période, on peut appeler ça, c'est l'axe Vienne-Paris. Ça va de Mesmer, 1780, à 1939, et de la monarchie à la société industrielle. C'est la première époque de la psychothérapie. La deuxième époque est extrêmement brève, c'est la contre-culture humaniste des années 60-70. C'est la thérapie humaniste qui dit « il y en a marre de la psychanalyse, il y en a marre du behaviorisme, nous, on travaille dans l'humain, on travaille dans l'instant, on travaille dans l'instantané, et qui on va tout fiche en l'air ». Ce mouvement a eu un gros impact dans les années 60-80, et actuellement plutôt en régression, et a eu beaucoup de mal à tester l'efficacité, il a même été contre-productif dans certains cas, avec des aggravations pour certaines méthodes qui sont considérées quand même comme dangereuses, et certaines étant interdites, d'ailleurs, comme le rebirth en particulier. Alors, les TCC apparaissent plutôt comme le moment de la globalisation, début vers les années 50 de manière modeste, et essor à partir des années 70, et développement à partir de 90. C'est le début de l'ère scientifique. Moi, je pense que les TCC, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, parce que j'ai senti, à l'époque, quand j'ai commencé là-dedans, dans les années 70-75, qu'il y avait quelque chose qui pouvait se développer, mais il faut aller probablement plus loin, voir vers où ça conduit. Je dirais qu'on est plus dans le début de l'ère scientifique, dans le melting pot. C'est un mouvement international, en réalité. On nous avait d'ailleurs assez critiqué là-dessus, à une époque. Et transculturel, parce que ça s'applique partout. J'ai enseigné la TCC à Constantine, j'ai monté un diplôme à Constantine ces dernières années, pendant 3 ans, on peut très bien enseigner la TCC, et la pratiquer avec quelques variations dans un pays de confession musulmane, avec une culture différente. Bon, ils se sont adaptés, et puis voilà, il y a une adaptation culturelle à faire, alors qu'ils n'avaient absolument pas pu s'adapter à la psychanalyse. Et donc, il y a eu beaucoup de mal en disant c'est très théorique, mais bon, et on a formé 50 personnes comme ça, bon, on verra leur destin. Donc, on est dans le melting pot. Alors, effectivement, il y a un problème central. Bon, la TCC, d'accord, mais il y a d'autres formes de thérapie efficaces, les thérapies interpersonnelles. Certaines formes de thérapie psychodynamique ne sont pas nulles, contrairement à ce qu'on dit. Les facteurs communs, je vais les résumer de la façon suivante. La thérapie comporte un manuel pour le patient et un autre pour le thérapeute. C'est déjà la première chose. La psychothérapie suscite des espoirs de changement, ce qui n'est pas évident, parce que certaines psychothérapies ne vous donnent aucun espoir. Une alliance thérapeutique positive se noue entre le patient et le thérapeute. La psychothérapie commence par une psychoéducation qui explique au patient son trouble. Le rôle des expériences précoces dans le fonctionnement des problèmes actuels est reconnu, ce qui est commun au behaviorisme et psychodynamique, thérapie interpersonnelle. Enfin, toutes les thérapies disent, bon, ben, étudions le passé. Hein. On ne peut pas dire que la TCC n'étudie pas le passé. Les systèmes de croyances erronées sont modifiés progressivement. Le psychothérapeute propose un affrontement progressif du malaise en favorisant l'acceptation des émotions positives ou négatives. Il y a mise en place de stratégies de résolution de problèmes qui permettent aux patients de mieux prendre des décisions. Les plans d'action sont organisés en accord avec le patient. Le but ultime est de changer la vie du patient en fonction de ses valeurs personnelles. On débouche sur ce qu'on peut appeler la psychologie positive, c'est-à-dire quelles sont vos valeurs, finalement, qu'est-ce que vous voulez changer, ou est-ce que vous voulez rester tel que vous êtes. Donc on est là sur cette problématique. Donc, ce sont les ingrédients de toutes les psychothérapies efficaces. Je pense que pour polémiser le débat, ce serait de rechercher réellement ces facteurs à travers différentes formes de thérapie, différents manuels, et voir comment ça fonctionne. Alors le fardeau de la preuve, comme disait the burden of the proof, peut se formuler de la façon suivante. Une absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Hein ? Bon, peut-être des thérapies qui n'ont pas de preuve disent, ben oui, mais si on pourrait peut-être prouver qu'on a raison. Pourquoi pas, mais faites-le. Hein ? Ne dites pas, on est les meilleurs. La charge de la preuve appartient à celui qui affirme que sa théorie, sa méthode ou son idéologie est fondée et qu'elle est la meilleure. C'est ce que j'appelle pour mes étudiants le principe de Pilate. Donc je vais vous donner une brève lecture de l'Évangile. Pilate lui dit alors, « Vous êtes donc roi ?» Jésus lui répondit, « Vous dites que je suis roi, c'est pour cela que je suis né et que je suis venu au monde afin de rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui est de vérité écoute ma voix. » La vérité, quelle est-elle et qui la connaît, dit Pilate avec ironie. Et il sortit. Évangile selon saint Jean, chapitre 18. Voilà. Donc on est sur ce problème. C'est le problème de la foi par rapport à la démonstration. Et Pilate avait raison. Alors, quelques conclusions provisoires. D'abord, je vais faire plaisir à quelqu'un là, qui aime bien Hegel. La ruse de la raison dans l'histoire consiste à se servir des passions des héros pour faire progresser les idées avant de les congédier. Bah oui, c'est dans Hegel, hein. Je n'invente rien. Hein. Le temps des héros et des gourous de la psychothérapie est sans doute révolu. Mais est-ce qu'on va assister à une évolution ascendante vers un statut scientifique de la psychothérapie ? Sera-t-elle conduite par des équipes de recherche et régulée par les patients et leurs représentants ? C'est là l'inconnu. C'est là où on est le point où on en est, je dirais, globalement. Quel est l'avenir de la thérapie scientifique ? Je n'en sais rien. Si je le savais, je le ferais, mais il est un peu tard. Et voilà les conclusions que j'avais à vous soumettre. Et je vous remercie de votre attention et vous pourrez trouver les éléments dans un livre que j'ai écrit.
Bonjour monsieur, merci beaucoup pour cette intervention. J'aimerais vous poser une question en fait par rapport au tableau du début, surtout à partir d'une population qui est toujours un peu difficile, qui est celle des personnes qui sont auteurs d'infractions pénales. Parce qu'il y a ce secteur-là aussi qui existe, je dirais, où le champ de... Que je connais très mal, hein, à la fois des psychiatres, des psychothérapeutes, il y a des thérapies, il y a aussi une évaluation parfois de la responsabilité de ces personnes, aujourd'hui de leur dangerosité, avec des effets qui sont importants et des traitements qui sont mis en place. Et ces traitements, ils sont d'autant plus difficiles à mettre en place, c'est pas toujours des personnes qui sont consentantes, il y a parfois des choses qui sont des soins qui sont pénalement ordonnés. Et donc, je voulais vous savoir. Première question, si ce champ finalement d'une évaluation des psychothérapies aussi pourrait prospérer de ce côté-là, avec justement des solutions qui on cherche à être apporté à des personnes qui sont auteurs d'infractions sexuelles, par exemple, ou d'agressions. Si vous voyez un avenir assez important pour ce secteur spécifique, qu'on n'avait pas vraiment évoqué, mais bon, c'est, je vous le reproche pas du tout. Et deuxièmement aussi, du point de vue des finalités, qui sont aussi celles, pas simplement parfois de soigner, mais qui sont celles aussi qui sont plus complexes, parce que ça introduit un facteur normatif qui est celle d'une société, peut-être, qui ne veut pas que des gens récidivent. Alors, certes, ce secteur, on le voit clairement dans l'exemple, peut-être, de cette population un peu particulière, mais bon, il me semble, mais ça rejoint peut-être une impression que j'ai depuis ce matin, à la fois, il y a bien sûr ces traitements qui peuvent être évalués, fondés sur les preuves, etc., mais il y a toujours aussi un aspect de finalité. Même si on est dans l'objectivation qui est la plus complète, ça introduit aussi, une normativité qui est peut-être irréductible, pas, d'ailleurs qui n'est pas plus présente dans la psychothérapie qu'il peut y avoir ailleurs, dans d'autres champs de la connaissance, que ce soit les modèles climatiques ou que sais-je encore, où on sait bien qu'il y a des variables qui sont aussi, qui orientent, y compris les attitudes d'évaluation et peut-être de thérapie.
Oui, enfin, il y a plusieurs questions dans votre question. Je vais essayer de la décomposer. La première question, c'est la question des personnalités antisociales. Il y a des essais contrôlés. Il y en a au moins un qui a été fait par Luborski, qui a montré que la thérapie psychodynamique ou la thérapie cognitive était meilleure que le soutien social, à condition que le sujet soit déprimé et à condition que le thérapeute soit cohérent et suive son manuel correctement. Donc il y a au moins une étude, il y a quelques autres études que je n'ai pas en mémoire qui ont été faites sur cette population particulière. On peut retrouver des délinquants parmi les borderline. Sur les borderline, il n'y a qu'une bonne démonstration d'efficacité de la TCC avec au moins une vingtaine d'études. Alors vous posez une autre question qui est celle des délinquants sexuels graves. Apparemment, la recherche suggérerait qu'il y ait des modifications tout à fait importantes au niveau du fonctionnement cérébral. Quand ils disent « ce n'est pas ma faute », peut-être qu'ils n'ont pas tort. Et là-dessus, on devrait réfléchir. Ceci dit, une société a le droit de se protéger. Hein? Bon, c'est autre chose. Et se protéger au maximum. Parce qu'il est évident que si c'est un montage biologique irréductible, il y a peu de chances qu'une thérapie, jusqu'à présent, ait montré une efficacité quelconque et que les solutions pharmacologiques ou autres peuvent s'avérer peut-être les plus opérantes. Mais ça, je n'ai pas d'opinion personnelle là-dessus, je n'ai pas travaillé sur le sujet. Donc, tant que la recherche sur ce sujet-là n'a pas vraiment progressé, on est dans des mesures conservatoires, hein, et ça, c'est une décision qui n'appartient pas à la psychologie ni à la psychiatrie, mais qui appartient à la loi, et aux représentants de la loi, et qui appartient au Sénat, à la Chambre des députés. C'est tout. C'est la loi. Voilà ce que j'avais à vous répondre. Ceci dit, il y a toujours des cas individuels qui marchent. J'ai un cas de jeune violeur qui apparemment a bien marché, mais on a tous des cas individuels. Mais des études d'ensemble vraiment convaincantes sur ce domaine-là, personnellement, je n'en connais pas. Hein. Il y a des choses qui sont faites, mais une certitude qu'à 30% on va avoir par une thérapie une amélioration d'un comportement grave d'offense sexuelle, je ne pense pas qu'il y ait de démonstration vraiment importante. Hein. À moins que quelqu'un d'autre ait des informations dans cette salle. Hein.